Cette semaine, dans le balado, on affronte des déesses en colère et l'amour est dans le soulier. What? Ça se peut? Hey, vous êtes bienvenue à mon ciné-balado. Vous êtes accompagné de Patrick Marleau et Jean-François Breton.
C'est-tu Cendrillon, ça, l'amour est dans le soulier?
Ça pourrait effectivement être une reprise de Cendrillon. C'est moi maintenant qui ai la voix...
Roueuse
cette semaine. Pour moi, tu m'as refilé tes bébites.
Ah non, il y a eu un délai. Ah, là, c'est vrai, là, d'accord. Je me détache de tout ça.
Donc, sortie d'un film québécois assez attendu cette semaine.
Ouais, production, La Cordonnière.
Oui. Un retour d'un super-héros également. Et avant de faire le tour d'horizon des sorties de la semaine, ben un petit tour d'actualité, semaine assez tranquille quand même.
Oui, ben écoute, on peut commencer par faire notre retour sur les Oscars.
Bien sûr.
Est-ce que c'était ta meilleure performance?
Non, je confesse que ce n'était pas une très bonne performance. Je me suis fait déjouer. Je pense comme bien du monde, All Quiet on the Western Front a remporté un peu plus de statuettes que l'on prévoyait.
Ben absolument. Mais c'est vrai qu'il y avait comme 9 nominations, ouais. Mais tu as dit on se fie beaucoup à toutes les guildes, puis les galas et les cérémonies de prix qui ont lieu pré-Oscar. Mais Quiet était jamais là, puisqu'il est un film étranger. Fait que là, on se base, OK, ça va être sûrement Elvis, ça va être Babylon, ça va être ça. Puis là, il est arrivé, puis c'était All Quiet.
Il a fait une petite razzia quand même, mais pleinement mérité quand même. C'est un très bon film. Alors, moi, j'ai terminé avec 15/21. Alors, je me suis trompé 6 fois. Là,
fait que, j'ai pas noté mon score, mais je me suis trompé au moins autant souvent que toi, et peut-être plus, parce qu'il y a des affaires que j'avais pris différents, que des fois tu as eu, ou que les deux, on avait la mauvaise chose. Everything Everywhere a passé la gratte.
Oui, 7 prix quand même. Très content pour ce film qui les méritait tous, honnêtement. Ça donnait quand même aussi de très beaux moments de remerciements, honnêtement. Ouais. Ça a été un bon gala à ce niveau-là, très émotif.
C'est ce que je disais, moi j'avais... Je pense que j'avais déjà écouté des bribes là, des Oscars, ben, soit des fois des discours sur Internet par après.
Ouais.
Et en direct le dimanche, il y a quelques années, surtout quand je vivais chez mes parents, je pense que ma mère l'écoutait, fait que je me retrouvais à l'écouter pendant un peu une demi-heure, mais je me sentais pas tellement impliqué. Là, tu sais, j'avais vu un ou deux films, puis Tom Hanks gagne, ah, c'est cool, je l'aime, mais je n'ai pas vu ce film-là.
Mm-hmm.
Mais là, je pense qu'avec justement le Everything Everywhere, puis je l'ai suivi de près. Même l'an dernier, je n'avais pas suivi très tant que ça. Puis je me sentais vraiment impliqué. Puis nous autres, on avait les joues humides à la maison,
ben oui.
Avec tous les premiers discours en force là, de Kiwi Kwan et...
Jamie Lee Curtis
aussi. Puis Brendan Fraser également.
Ouais, ouais. Et d'ailleurs, félicitations à notre Québécois, Adrien Moreau, qui a remporté un prix pour le maquillage pour The Whale. Donc, encore là, amplement mérité. Donc, somme toute, oui, moi, c'est un gars-là que j'ai bien apprécié. J'adore, honnêtement, Jimmy Kimmel. J'écoute son émission de temps en temps. Quand
le petit ton pince sans rire un
ouais,
peu.
Oui, c'est ça. Il est très moqueur. Puis, il se prend un bon sens d'autodérision aussi. Et je trouve qu'il fait une bonne job, là, un animateur très classique. Pour les Oscars, donc
on se textait un peu, puis c'est ça, vers 11h, je disais, OK, là, moi, c'est dimanche, là, je suis fatigué, je vais me coucher, checker le reste. Puis là, un peu le temps de me laver les dents, je laissais la télé rouler, puis là, j'ai fait, hey, il reste juste acteur-actrice et meilleur film, tu sais. Bon, je les écoutais, ça a fini vers 11h35, à peu près.
On y échappe pas passé... 3h30, c'est toujours
oui,
pas
c'est
passé.
Sûr, mais je veux dire, hey, ils ont remis toutes les catégories, fait que là, il y a eu 23 catégories, je pense. 23,
me
semble. Puis ça a duré moins de 3h45. Moi, je trouvais ça épatant. Je me souviens des années où ça finissait quasiment à minuit.
Ouais.
Ils montraient moins de catégories que ça. Mais tu disais qu'ils ont peut-être enlevé une couple de montage puis de retour.
Ouais, puis j'ai l'impression qu'il y avait moins de flafla aussi entourant les présentations. Là, tu sais, des fois, toujours des petits... sketch, là.
C'est ça. Des présentations de 5 minutes.
C'est
là,
ça, là. Tu sais, fait que t'accumules ça 4-5 fois dans la soirée, plus 2-3 montages. Fait que, on dirait que c'était un peu plus, un peu plus dynamique, là.
C'est cute de voir souvent, c'est des anciens gagnants ou des comédiens qui ont eu des projets qui s'en viennent ou qui ont été lieu dans l'année. Mais c'est jamais drôle, là. Tu sais, c'est cute de les voir, on est content. C'est « Ah oui, on l'aime. »
Ça dépend c'est qui, honnêtement. Jim Carrey, Will Ferrell.
Ah, je me souviens que Ben Stiller a aussi des grosses époques c'est ça, quand il venait présenter. Là.
Quand eux autres sont en forme et ils s'y mettent, là, ça peut être très drôle. Parce qu'il y avait même eu un moment donné, Jack Black et Will Ferrell avaient chanté Non, pas Jack Black, c'était le gars de Step Brothers, là, voyons.
John C. Reilly?
Ouais, John C. Reilly, sur, je me rappelle plus du sujet, là, mais en tout cas, c'était hilarant, c'était très, très drôle. Là.
OK, OK, OK. Fait que, ben, quand ils prennent des humoristes, alors peut-être, ouais, mais on dirait que quand ils écrivent des blagues pour Halle Berry, c'est comme, ça lève pas tant que ça.
Ouais, il y en a qui sont moins naturels, mais...
Ouais, c'est ça, là, je disais ça de même, là, je pense pas qu'il y en avait cette année, là, mais... Fait que bref, je trouvais que ça roulait bien. Puis aussi, ouais, tu sais, quand ils présentent les nommés, c'est très rapide. Là. Il y a des années, je pense que c'était quand même quasiment des extraits de 30 secondes de chaque nommé, chaque projet. Là. C'est, regarde, vous les connaissez, là.
Ouais, c'est ça.
On y va. Puis, non, je sais plus où j'allais. Ah, ben un peu les grands perdants, finalement, c'est tout. C'est les Elvis, Banshees, puis Fableman.
Ouais, quand même.
Qui avait puis même Tar, à la limite, là, qui avait un gros lot de... De nomination.
Ouais, c'est rare qu'on voit ça aussi divisé en deux films. T'sais, habituellement, on a toujours quand même quelques-uns qui vont réussir à en avoir deux, trois, mais cette année, là, c'était assez clair. Donc, ouais, quand même beaucoup de grands perdants.
Ouais, c'est ça.
Quand même. Et le pauvre John Williams qui, écoute, je pense que c'était sa 50e nomination, genre. Puis, okay. C'est ce que Jimmy Kimmel, d'ailleurs, l'a gassé en disant, ouais, je pense que 5 ou 6 victoires, fait que c'est comme pas...
C'est
impressionnant,
moyenne,
mais c'est pas une bonne moyenne au bâton. Non, là, fait que, mais c'était quand même émouvant de le voir sur place. Quand
ben,
même.
Parce que d'un côté, il doit avoir une liste. Ben oui, c'est sûr qu'il y en a des gens qui ont été nommés une fois puis qui ont gagné une fois.
Ben oui.
Ils sont comme 100%, mais ils n'ont pas fait un film non plus. Là. Ils ont peut-être fait 35 films dans leur carrière, mais il y en a eu un. Tu sais, Brendan Fraser, c'est peut-être un peu ça, là, à moins qu'il retrouve plein de rôles aussi intenses et tout. Là. Mais tu sais, toute sa carrière de film, c'est là. Puis, Michelle Yeoh, c'est un peu ça aussi. C'est sûr que c'est pas tout aux États-Unis, c'est international, mais ça se veut la reconnaissance et tout. Alors que d'autres, Cate Blanchett, en a quoi, 2 ou 3 à date, puis ça fait comme 4-5 fois qu'elle est nommée.
Ouais, je pense pas qu'il y en a autant. Peut-être 2, ouais. Peut-être
Blue Jasmine,
je pense.
Blue Jasmine, assurément. Ouais. Puis, il me semble qu'il y en avait un autre.
Et je pense que le plus drôle des remerciements, c'était celui de pour le montage. Je pense que c'était Paul Rogers de son nom, en tout cas, qui a
pour Everything Everywhere, ouais, lui qui arrive comme tout seul.
Ouais, puis en plus, il dit lui-même, c'est juste son deuxième film. Là.
Ouais.
Fait que quand même, pas si mal.
C'est
il doit avoir quand même un peu ce sentiment-là d'imposteur, tu sais, quand c'est tes premiers habituellement dans ce milieu-là, premier crédit officiel, finalement, tu réussis à avoir l'acteur, tu sais, devant tant d'autres, mais...
J'ai pas regardé c'était quoi son premier film, c'est ça?
Je sais pas
l'autre film des Daniels. Mais oui, ce qui est drôle, c'est qu'il y a aussi beaucoup de... La plupart des prix techniques, le son, le maquillage, les décors, tu sais, sont plusieurs, là. Ils sont une équipe à travailler. Là, on voit aussi les gagnants de meilleurs documentaires, courts-métrages d'animation. C'est des ensembles de production, tu sais. Mais lui, c'était le premier comme prix technique qu'il montre, ben, c'est moi. T'sais, il doit avoir un assistant ou une assistante aussi, des fois, qui travaille des choses, mais c'est comme, ouais, c'est moi. Je parle au Daniel, je monte ça chez nous, puis... ça doit être bizarre, ce rôle-là, que... Un peu comme la musique aussi, tu sais, toutes les, comment dire, les maquilleurs, les cinémas, les directions photo, ces choses-là, sont tous sur le plateau. Ouais. Ils ont des anecdotes de plateau, ils ont travaillé en amont, ils travaillent dessus. Il y en a qui ne travaillent plus après, c'est fini leur travail. Mais tout après, en post-production, c'est
assez solitaire.
T'as pas le même party, même ceux qui font les effets visuels, mais ils sont une gang ensemble, c'est un bureau de travail et tout, mais... Bref, je trouve ça drôle. Celui qui va faire la musique, c'est comme, ben, je fais des back and forth. Moi, je travaille avec les musiciens, mais je connais pas Jamie Lee Curtis. Là.
Non, effectivement.
J'ai peut-être vu un party à la première, puis c'est tout. Là, ça fait partie de toutes les facettes de la production d'un film, finalement.
Et puis, ben, qui dit Oscar, c'était également les Razzies qui avaient eu la veille le samedi.
Oh, j'ai pas regardé ça, qui était le grand... Ben, on dit-tu des gagnants ou des perdants?
Ouais, tu peux dire les deux. Dans ce cas-ci, ben, c'est Blonde qui a récolté la palme d'honneur.
Oh, OK.
Pour le pire film et également scénario, donc un doublé. Et Morbius également, un petit doublé dans le rôle, dans les comédiens, catégorie acteur pour Jared Leto et actrice de soutien également. On sait qu'il y avait une petite controverse s'entourant les Razzies cette année parce qu'ils avaient nominé une jeune comédienne d'11 ans.
Oui, c'est vrai, pour Firestarter.
Firestarter. Finalement, suite à tout ce backlash-là, ils avaient finalement retiré cette candidature et j'ai trouvé ça sympathique quand même cette année. Donc, dans la meilleure, dans cette catégorie-là, au lieu de donner un gagnant, et ce sont eux-mêmes qui se sont octroyés le prix finalement.
Ah ouais,
les Razzies. Les Razzies. Pour leur, pour cette débâcle-là. Donc, j'ai trouvé que c'était de bonne guerre quand même.
Bon. Mais j'ai pas vu Blonde, mais je trouve ça surprenant que ça a été pire que Morbius.
Ben,
Morbius,
écoute,
c'était
ouais,
vraiment pénible.
Puis honnêtement, je comprends pas pourquoi que c'est y a beaucoup de vitriol entourant ce film-là. Peut-être parce que c'est une version controversée de Marilyn Monroe, qui est quand même une icône de, ouais, de la culture américaine et tout ça. Mais en même temps, c'est jamais prétendu être une biographie.
Non,
c'est vraiment
ça.
Adapté d'un roman qui est une version justement romancée de la vision. Puis, tu sais, c'est... Ouais, c'est ça. J'écoute, j'ai vu des affaires bien, bien pires que ça. Donc, en tout cas, des fois, ça arrive comme ça. Moi, j'ai une petite nouvelle.
Ouais, vas-y, je t'écoute.
Nouvelle québécoise.
Oh! C'est chaud.
Ouais, oui, c'est sorti, je pense, hier même. En plus, t'es un grand fan de BD comme moi.
Oui, mais j'en lis pas autant que j'aime ça.
Tu as sûrement lu Les Paul de Michel Rabagliati.
Oui.
Ben voilà. Alors, on avait eu un Paul à Québec en 2015. Alors, François Bouvier, le réalisateur de
La Cordonnière,
qui avait réalisé Paul à Québec, ben, a confirmé travailler sur Paul un travail d'été,
okay.
Qui est la deuxième bande dessinée où on retrouve un jeune Paul de 18 ans qui travaille dans un camp d'été et tout ça. Donc, premier amour et tout ça. Probablement, moi, je pense que c'est un de mes albums préférés de la série, honnêtement. Je la trouve vraiment excellente. Donc, il travaille là-dessus. Voilà. Donc, on n'a pas encore de date de tournage. Je pense pas que le financement est octroyé officiellement, mais je pense qu'on...
C'est ça, on est dans la scénarisation.
Oui, c'est ça. Donc, et il confirme qu'on devrait revoir quand même François Létourneau un petit peu, parce que là, évidemment, François Létourneau incarnait Paul à l'âge adulte dans Paul à Québec.
Ah, fait qu'il va comme avoir des flashbacks.
Probablement, c'est ça. Donc,
fait que là, il va falloir trouver un jeune...
Un jeune Paul, effectivement. Donc, qui est très curieux de voir.
Il faut qu'il aille comme 16 ans. Fait que là,
Plus 18, qui était en 18 puis 20. Là,
je sais pas s'il acte encore, mais le fils de Daniel Grenier puis de Marat Tremblay, là, qui était dans Genèse puis dans Les Démons.
J'ai pas vu. Je peux pas te mettre de visage dessus.
C'est justement, je pense qu'il s'appelle Grenier Tremblay comme nom de famille. Édouard. Oui, je pense que c'est ça.
Une bonne petite bête, j'irai voir ça.
Oui, ben peut-être. Si, je sais qu'il fait de la musique pas mal ces temps-ci. Yep. Je sais pas s'il fait encore ça. Bref, c'est juste je pensais tout de suite à un jeune... mais si tu veux, voyons, François... j'ai déjà oublié son nom.
Létourneau.
Létourneau. Il a un visage assez triangle quand même. Hein, fait que ça prend... Ouais. Bref.
Et une façon de parler aussi. Il y a vraiment son style de delivery, comme on dit. Là,
mais j'ai pas vu Paul à Québec. Est-ce qu'il gardait le même delivery qu'on lui connaît de ses vies noires et de tout ça?
Oui, pas aussi cynique, là, nécessairement. Oui, mais tu sais, mais oui, quand même. Je pense qu'il y a vraiment son style à lui. Mais honnêtement, Paul à Québec, je te l'invite à le voir. C'était vraiment une très, très belle adaptation. Et ce qui était le fun, c'est qu'ils ont conservé la bande dessinée au cœur de l'histoire, parce qu'ils auraient pu évacuer ça. Mm-hmm. Mais non, on le voit vraiment dessiner.
Il est comme en train de dessiner ce qu'il vit.
Oui, c'est ça. Fait que c'est très, très bien. Alors, Paul a un travail d'été.
À venir.
Ouais, effectivement. Sinon, bonne annonce. Encore là, très tranquille, mais on a enfin eu la vraie ou l'entière bonne annonce de Little Mermaid.
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ça, sorti aux Oscars comme on avait annoncé.
Mais pas... pas pendant les pauses, mais vraiment, ils l'ont présenté pendant la cérémonie.
C'est très spécial.
Ce qui était un peu malaise. Hein? J'imagine les autres studios doivent se questionner un peu parce qu'on sait que les Oscars étaient diffusés sur la chaîne ABC qui appartiennent à Disney. Donc voilà, toute convergence.
Plus,
tout à fait. Là, la convergence.
OK, mais bref. Fait que c'est les deux actrices principales. J'ai tout oublié les noms.
Melissa McCarthy, entre autres. Puis la jeune Ellie.
Oui.
Quelque chose. En tout cas, bref.
La petite sirène.
Oui, et visuellement, ça a l'air vraiment spectaculaire.
Oui, Rob Marshall qui réalise, et lui qui a réalisé plusieurs comédies musicales et tout.
Chicago, Into the Woods, Les Misérables. Fait que, moi, j'y crois que ça va être un très, très grand succès. Ça va être, je pense, un film de très bonne qualité, mais Donc, c'est que La Petite Sirène fait partie de ces dessins animés très iconique, appréciés, ouais. iconiques, c'est ça. Même si ça date de 89, mais c'est ce qui avait reparti Disney. On sait que Disney avait connu quand même une période creuse dans les années 80 pour le film d'animation. Et en 89, La Petite Sirène avait
relancé. Ben je pense que c'est aussi relancé. Arrivé sur l'ère de gloire du VHS.
Ah oui, effectivement. Là,
au cinéma,
oui,
je sais pas ce qu'ils avaient fait, mais moi,
ah, très bien
on les
aussi,
possédait
ouais.
tous. Là.
Ouais.
Fait que, ouais, ben, bref, quoi de plus à dire qu'allez la voir si vous voulez. Ça a l'air super bien. Ça m'intéresse pas vraiment. J'ai pas d'enfant, je suis un peu vieux pour ça. C'était pas mon préféré, mais écoute, professionnellement, je vais sûrement aller le voir, là, de bonne foi. Là, c'est juste, je suis pas excité d'aller voir ça. Là. En fait, aucun des remakes. Je crois que j'ai vu que le Livre de la Jungle. J'ai pas vu Aladdin, j'ai pas vu Le Roi Lion, j'ai pas vu La Belle et la Bête. Non, c'est ça. Je suis pas. J'ai mieux les productions originales que les remakes de leur propre affaire. Juste avant d'enregistrer, on a vu que Ruby Gillman, Teenage Kraken, donc Ruby Gillman, Kraken adolescent, des studios DreamWorks, on vient de lancer la bande-annonce. Ça va prendre l'affiche le 30 juin, donc un mois après la petite
sirène. C'est quand même un peu pari audacieux.
Ouais,
enfin.
Et c'est de l'animation ici.
Ouais.
L'histoire d'un jeune Kraken, une jeune Kraken,
jeune,
c'est une espèce de pieuvre géante des mers là, dans la mythologie des pirates et tout, comme dans Pirates des Caraïbes, par exemple, qui se fait passer pour une humaine.
Oui, bien qu'elle ne ressemble pas du tout
non,
à une humaine.
C'est ça, mais en tout cas, drôle, en mettant des vêtements et des lunettes, ça passe. Puis elle va entrer en contact un peu avec une sirène qui se fait également passer pour une humaine. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de magie là-dedans. Là. Sauf que dans cet univers-là, ben, c'est plus proche de la réalité. La mythologie réelle, c'est que les sirènes, c'est pas des bonnes créatures, c'est des méchantes créatures.
Et là, c'est comme la clique des ados hot qui intimident les autres un peu. Oui,
c'est
qu'on
ça.
Peut voir.
Fait qu'elle va devoir assumer son côté Kraken et avoir une grosse bataille marine. Ouais. Mais on est dans le monde des humains, fait que les humains comprennent comme que dalle de ce qui se passe sur une ville côtière ou quelque chose comme ça. Fait que c'est assez flyé. J'aime l'audace de cette proposition-là qui diffère de ce qu'on voit d'habitude. Mais je sais pas si à prime abord, c'est quelque chose qui va faire courir les foules... pour eux, là, mais je suis content qu'ils osent faire le truc. C'est il y a Kirk DeMico qui est associé au projet là, comme co-scénariste et réalisateur, lui qui a travaillé sur les Croods puis Vivo. Puis j'ai noté aussi la co-scénariste Pam Brady qui avait scénarisé Hot Rod dans le temps, le cascadeur avec Andy Samberg et tout. Complètement différent, mais... Fait qu'on leur souhaite bonne chance avec ça. À suivre cet été pour Ruby Gillman, Teenage Kraken, qui est quand même un drôle de titre. Là.
Ouais, fait que c'est pas le plus
juste,
vendeur.
Juste
là, mais...
Teenage Kraken, mais le fait de la prénommer, je sais pas, ça colle moins comme... ça fait un peu comme The Diary of a Wimpy Kid. Là, je sais que c'est un certain succès, mais c'est pas des titres accrocheurs. C'est trop long. Puis au Québec... des fois on les oublie, mais Farador, la bande-annonce officielle a pris l'affiche hier, fait que là en fin de semaine on va sûrement être devant plein de projections sur les écrans. Fait que c'est comme moi j'ai vu le film final à Ciné-Québec, toi pas encore, mais on a parlé souvent avec l'équipe, fait qu'on dirait qu'on l'oublie, mais ça s'en vient. Puis il y a vraiment un hype là, une popularité grandissante pour ce film-là, les gens ont vraiment hâte. Puis tant mieux, tu sais. Puis il a été présenté au rendez-vous Québec Cinéma. Ils ont fait vraiment un gros succès avec cette projection-là. Tout le monde était. Plein de gens étaient costumés. Fait que le 21 avril pour Farador, la bande-annonce montre assez bien que c'est ça. C'est pas juste un film d'univers fantastique, mais qu'on est dans le monde réel. C'est plus des gens qui arrivent pas à délaisser leur espèce d'adolescence puis grandir. Je mentionne la musique de la bande-annonce, je suis pas convaincu, mais la musique du film est vraiment meilleure que ce qu'il y a là-dedans. Mais c'est juste mon opinion personnelle, là. Laissez-vous pas peut-être abattre par ça.
Alors j'irai la voir parce que moi je l'ai pas vu encore, effectivement. Donc restons peut-être dans le film familial, l'offrande de la semaine, avec Shazam Fury of the Gods de David Sandberg, donc deuxième volet avec ce super-héros
adolescent,
plutôt comique.
Ouais, La Rage des Dieux, Shazam La Rage des Dieux au Québec. Ça met encore en vedette j'ai pas noté le nom quand ils sont jeunes parce qu'ils sont moins quand ils sont adolescents parce qu'ils sont moins connus, mais les noms des ceux qui incarnent les héros, c'est Zachary Levi, Adam Brody, mais on voit l'apparition de Rachel Zegler cette fois et les deux méchantes et super actrices Helen Mirren et Lucy Liu. Alors, on suit encore Billy Batson. On est vraiment dans la mode. Tout le temps, les super-héros, toujours, ça a la même lettre de prénom.
Les initiales, effectivement.
Billy Batson, puis son ami Freddie Freeman, qui n'est pas le joueur de premier but des Dodgers de Los Angeles maintenant. Freddie Freeman.
Je suis moins de baseball.
Mais il était à Atlanta vraiment longtemps, puis l'an dernier, je pense que c'est les Dodgers qui l'ont signé. Puis, bref, on suit Billy Batson. On est à Philadelphie, qui est un ado orphelin. C'est lui qu'on avait connu dans le premier volet. Fait qu'il est dans sa famille d'accueil, mais là, il est sur le bord d'avoir 18 ans et déjà qu'il a des troubles d'attachement. Fait qu'il veut vraiment souder avec ses amis. Et à la fin du premier volet, il avait pu partager ses pouvoirs avec tous ses frères et sœurs de la famille d'accueil. Fait que là, ensemble, ils sont une gang d'héros qui essayent de régler des problèmes à Philadelphie quand il y a des catastrophes, des choses comme ça. Pas nécessairement des super vilains, là. On comprend qu'il n'y en a pas eu entre le premier puis ce volet-ci. Mais ils ne sont pas si doués que ça. Mm-hmm. Là. Ils font un peu le mal en essayant de faire le bien.
Ils ont de bonnes intentions, mais le résultat final n'est pas toujours à la hauteur.
L'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà. Mais... fait que la ville les aime, sont mi-chauds un peu envers eux. Fait que leur identité reste secrète. Ce qui est très drôle parce que dans le monde du sport, Philadelphie est reconnue pour être des partisans assez acerbes, cinglants, okay. Pas les meilleurs.
Donc c'est dans le caractère.
Pas les plus cool, genre, ouais, c'est quand même drôle. Comment ils appellent donc
Philly Fiasco.
Ouais, Philly Fiasco, c'est trop ça. Fait que bref, il maîtrise encore mal un peu ses pouvoirs, son image de super-héros, puis qu'est-ce qu'ils veulent faire. Fait que tu sens que c'est Billy qui veut vraiment comme centrer les gens autour de lui, pas pour être le chef, mais plus pour essayer de rallier, alors que tout le monde essaie d'avoir des projets solos, de faire chacun comme il l'entend. Lui disant, il faut toujours qu'on soit, c'est tout le monde ensemble, c'est vraiment important.
En fait, les autres veulent voler de propres ailes.
Ah. Oui. C'est ça, et tous des héros qui volent. Fait que c'est drôle. Je me demande s'ils le disent pas littéralement dans le film, cette phrase-là. Mais bref, un de ces quatre, par un beau matin, des super méchantes.
Des déesses,
ça. Ouais, des déesses qui viennent d'une espèce d'ancien temps, style Grèce, récupérer un sceptre pour reprendre le pouvoir qui leur est dû et que Shazam et sa bande leur ont volé. Mais ça, tu comprends que c'est une histoire bien au-delà, bien avant que Billy soit au courant de ça. Fait que, bref, rentrer des problèmes entre les Philly Fiasco et ces madames-là qui veulent tout péter.
Donc, le premier volet était sorti en 2019. Évidemment, celui-ci était retardé avec tout le problème de la COVID et tout ça, donc aurait dû sortir quand même un peu plus tôt. Moi, j'avoue que le premier à l'époque, j'étais tellement sceptique. Faut dire que ça cassait le ton très noir et sombre des films de Zack Snyder.
Ouais.
On allait vraiment ailleurs. Et finalement, ça avait été une belle surprise, honnêtement, le premier Shazam. Donc, le 2 est vraiment en continuité. Donc, on reste dans le film très léger, justement beaucoup plus familial. Beaucoup d'humour très présent. Moi, je dirais... ce que j'ai beaucoup aimé, c'est Rachel Zegler, que tu as nommé, qu'on avait vu dans West Side Story, en fait, découvert, parce que c'était son premier rôle dans West Side Story. Et honnêtement, à chaque fois qu'elle est à l'écran, elle captive. On est là, puis on la regarde, puis on y croit. Elle a tellement un charisme fou. Et pour le reste, ben, c'est un film de super-héros. On s'en cache pas quand même un peu générique, là. C'est pas exceptionnel.
On n'a pas réinventé une recette.
Non, c'est ça. Puis... Fait que si vous avez aimé le premier, normalement, vous devrez aimer le deuxième.
La force du film, c'est qu'on dirait que les films de super-héros, on l'a vu dans des derniers Marvel, se veulent de plus en plus sérieux, justement. On va dire non, c'est des vrais enjeux, des vrais problèmes. Mais là, puisque c'est des adolescents de entre 14 et 18 ans qui sont ces super-héros-là, ben ils sont très adolescents, ils vivent leurs premiers amours.
Ouais.
Le Billy Batson, lui, il fantasme sur Wonder Woman. Tu sais, on est dans l'univers DC, fait que tous les autres héros existent. Fait que
cet angle-là d'avoir des super-héros, avoir les comportements de leur vrai alter ego d'adolescent ou préadolescent, même il y en a un peu plus jeune. Ça donne des situations qui sont quand même assez comiques.
Un peu à la Spider-Man, mais encore plus léger peut-être. Là, bref, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de personnages, c'est peut-être ça un peu le défaut. Comme les deux méchants, méchantes, on voit beaucoup Helen Mirren qui a l'air d'avoir vraiment un plaisir fou à être dans ce contre-emploi-là. Comme quand elle joue dans Les Rapides et Dangereux aussi.
Mm-hmm.
Mais ça donne très peu d'écran à Lucy Liu. Elle est comme juste... Elle est aussi souvent à l'écran, elle parle pas, elle dit presque rien. Puis c'est ça qui est un peu dommage. Ça aurait pu être n'importe qui, quasiment. Puis ça aurait
tout à fait
la job. Fait que, bref.
Puis, petit fun fact, Rachel Zegler avait auditionné pour être dans le film de Flash, pour jouer Supergirl. Ah, mais elle n'avait pas eu le rôle, mais c'est l'agente de casting qui a proposé à la gang de Shazam, vous devriez la passer en audition, elle pourrait être très bonne.
Ben, donc, surtout, Supergirl qu'on va voir dans The Flash en juin, c'est ça? Mais il me semble qu'elle est petite, Zegler. Je ne sais pas de la personne qui ont casté finalement, mais ça a l'air d'être plus une fille de 5 pieds 8-9.
Ouais, je sais pas.
Zegler a l'air de faire 5 pieds 3. Là.
C'est peut-être la raison d'ailleurs. En costume, peut-être qu'elle n'était pas assez impressionnante.
On parlait de la petite sirène. Elle va jouer Blanche-Neige dans la prochaine aussi. Adaptation en prise de vue réelle.
Et comme c'est souvent le cas, ben, restez à l'affût jusqu'à la toute fin parce qu'on a des scènes post-génériques qui sont un peu étranges parce qu'on on a parlé dans le balado. Si vous êtes très à l'affût un peu des films de super-héros, on sait que cet univers-là de DC Comics va être réinterprété, va être remis à zéro. Donc, on a tout ça. Est-ce que, malgré que je suis allé lire un peu, et James Gunn, pour en ce qui concerne Sean Levy et Shazam, n'a pas dit un nom définitif. Mais c'est pas pour tout de suite. Okay. Donc, on peut s'attendre, si jamais...
Mais Sean Levy, quoi, ce serait...
Il revient, il reprend.
Zachary Levy.
Ah, Zachary Levy, ouais, Sean Levy, c'est réalisateur. Désolé. C'est ça, donc, Zachary Levy. Donc, ça se pourrait qu'il revienne, ce serait peut-être le seul rescapé de cette incarnation-là de l'univers DC, mais ce ne sera pas avant peut-être 3-4 ans. Est-ce que le public va avoir encore de l'intérêt? Je ne sais pas. Donc, c'est comme un pari risqué de nous montrer des choses que finalement va peut-être juste se terminer
très
là.
Très
peu là.
De chance.
Puis d'ailleurs, j'avais complètement oublié celle du premier film. Et parce qu'on voit une petite créature, une espèce de ver dans le deuxième, là, qui s'appelle Mr. Mind, en fait, qui est vraiment un personnage de bande dessinée. Et il était dans le premier à la toute fin aussi. Donc on le ramène, mais tu vois, je l'avais complètement oublié. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est le réalisateur David Sandberg qui fait sa voix. Alors, il s'écrivait peut-être... il se gardait un plus grand rôle pour un troisième film, qui sait.
Peut-être. Mais c'est quand même une des forces aussi, c'est que on voit ça de plus en plus. Quand il y a des franchises comme ça, ils vont les garder au même réalisateur parce qu'il connaît l'univers, il est allé lire toutes les BD. Souvent, ça a été attaché. Tu sais, Shazam n'est pas du tout le plus connu, là.
Non.
Puis, ils vont trouver un réal que lui a dit hey, « moi, je lisais ça, c'est ça que je capotais là-dessus », un peu comme Del Toro avec les Hellboy à l'époque. « Je veux ça ». Fait que là, tu dis « OK, ben parfait, tant que ça marche, c'est toi qui vas y faire, t'es bon là-dedans, puis ça va bien. » Ryan Coogler avec Black Panther, des choses comme ça. T'sais.
Tout à fait. Donc,
ou Gunn avec les Gardiens de la Galaxie.
Oui, un très bon exemple. Alors, allons complètement ailleurs, cette fois-ci, avec La Cordonnière de François Bouvier.
Oui, on est au Québec. François Bouvier qui nous avait donné, pas la Québec, comme tu as dit, l'entrée de jeu, mais la Bolduc également. Un scénario de Sylvain Guy qui nous a donné des films de mafia comme Mafia Inc. et Confession, mais également Louis Cyr ou Monica Lamitraille qui sont plus sur des personnes historiques du Québec. Louis Cyr a plus de statut de lui que Monica Lamitraille, par contre. Mais... Et c'est adapté des romans de Pauline Gill. On est au tournant du 20e siècle à Montréal. On suit Victoire Dussault, qui réalise qu'elle a plus que quelques semaines à vivre, fait qu'elle va demander à son fils Oscar de retourner avec elle une dernière fois dans la maison familiale de Pointe-du-Lac. Puis sur place, elle qui est la fondatrice de la grande cordonnerie puis qui a fait la fortune de la famille Dufresne, ça qui est une vraie famille à Montréal, elle va revenir sur les défis professionnels qu'elle avait dû connaître au début, puis les préjugés d'être une femme cordonnière qui fabrique des souliers, que c'est ça son désir. Puis pour soulager sa conscience, ben elle va comme raconter à son fils sa jeunesse et cette époque-là, mais aussi sa rencontre avec son époux Thomas Dufresne, mais que juste avant était aussi en relation amoureuse avec le père, donc Georges Noël, qui était son voisin, mais aîné de 20 ans.
Mm-hmm.
Fait qu'il y a un peu de mystère autour de ça. Fait que c'est comme le synopsis court, on peut le décrire un petit peu plus sans spoiler. Là.
Ouais, ben c'est sûr qu'à la base, c'est une histoire d'amour. C'est aussi...
On est entre l'historique puis l'amour. Là.
Et le film est comme une espèce de condensation, je dirais... Principalement, je pense plus des trois premiers romans de ce que j'ai pu aller lire un petit peu, un peu du quatrième. Donc, ça reste une intrigue complète en soi. Je sais pas si ça a été filmé au village d'antan de Drummondville.
Je ne sais pas.
La reconstitution historique est quand même très, très bien faite. Faut lui donner. Donc, je pense que ça va plaire. Si vous aimez les films d'époque québécois, avec quand même un pan d'histoire que je ne connaissais pas, bien que si l'emphase n'est pas nécessairement très mis sur sa réussite de cordonnière et d'entreprise de fabrication de souliers. L'intrigue est plus en arrière-plan, mais avec quand même ça d'intéressant que moi, je ne connaissais pas. Et je serais curieux de voir avec l'autrice des romans, parce que ça doit être quand même touché de s'inspirer de faits réels, d'un vrai personnage, après ça, d'inventer une fiction. Je sais pas, vis-à-vis de la famille et tout ça.
Mais est-ce que tu as inventé? Est-ce que tu es vrai?
Je pense que l'histoire d'amour, oui, de ce que j'ai compris. Puis même au générique, ils disent que c'est inspiré d'événements inventés. Ou en tout cas, je me rappelle plus de la tournure de phrase. Donc oui, fait que cette histoire-là d'amour n'a pas existé vraiment. Voilà.
Parce que c'est ça, fait que la manière que le film est pacé, t'as comme une première demi-heure, 40 minutes, que tu sens que c'est vraiment... ça, là,
son désir si
personne l'encourage, elle fait des souliers, elle essaie de les vendre au marché public, les vendeurs, ils n'ont pas l'air fiables, tes souliers, blablabla. Puis là, le voisin va l'encourager, lui, parce qu'il a un peu plus de moyens, mais il est marié, il a des enfants. Puis là, éventuellement, on va tomber vraiment dans la trame d'histoire entre la relation impossible avec le père, le mariage avec le fils. Puis comme tu dis, là, ça tombe vraiment en arrière-plan, le fait que la compagnie de souliers fonctionne de plus en plus et tout. C'est plus ça. Fait que c'est pas un portrait biographique, c'est vraiment une romance.
Une romance
historique, mettons. Là,
tout à fait.
Du Québec. Puis, tu sais, il s'en cache pas, là, Sylvain Guy, c'est ça qu'il a raconté là. Il voulait plus parler du caractère du personnage, que c'est ça, plus exactement de ce qu'elle est. Et j'ai pas mentionné qui joue là-dedans.
Ben oui.
Mais c'est Rosemarie Perrault. Qui est la Victoire Dussault jeune. Élise Guilbeault, qui est la plus vieille, fait que quand elle parle à ses enfants et qu'on revient dans le passé. Et les deux voisins, Pierre-Yves Cardinal, qui joue celui qui est plus âgé, Nicolas Fontaine, qui devient son mari, et le frère, joué par Henri Picard également.
Ouais. Et petit bémol, moi, je pense que j'aurais inversé. Je pense que j'aurais pris plus Henri Picard dans le rôle de Thomas. Je trouve que...
Il y a plus de présence.
Puis peut-être une bouille plus... parce que je peux faire une petite critique très légère du film, c'est que je trouve que le côté... En fait, le film ne possède pas nécessairement un côté très romantique. Puis c'est peut-être très voulu dans le ton, et c'est ce que le réalisateur voulait, je respecte ça. Mais, je sais pas, pour un film qui se veut quand même un peu sulfureux et tout ça, une espèce de désir interdit, je trouve qu'Henri Picard évoque un côté peut-être plus... plus sensuel, en tout cas une plus belle bouille que l'autre, mais ça c'est juste mon petit commentaire.
Ouais, ben là tu l'as vu plus... ça fait moins longtemps que moi que tu l'as vu. C'est ça aussi, c'est plus frais dans ta mémoire, fait que t'es peut-être justement encore attisé de tout ça.
Mais ça se dit, Rosemarie Perrault, quand même une actrice qui prend de plus en plus de galons, elle était également à l'affiche dans Crépuscule pour un tueur.
Oui, effectivement.
Donc, puis je pense que c'était quoi, les faux tatouages qu'elle a fait connaître il y a quelques années.
C'était un
là, fait
film
que,
de Pascal Plante.
En quelques années quand même, là, elle a réussi à... pas mal s'établir, donc...
C'est ça. Fait que c'est quand même une grosse sortie au Québec, tu sais, c'est... semble c'est produit par Christian Larouche, fait que ça, c'est des grosses productions, fait que c'est pour ça que je serais pas surpris que ce soit sur plein d'écrans. On peut s'attendre quand même à un bon succès pour La Cordonnière. Et ça me rappelle aussi, justement, La Bolduc, c'était sorti au mois de mars-avril aussi,
ça,
également.
Bien,
fait que c'est comme une période... à cinéma québécois d'antan, peut-être. Là. Quoique Louis Cyr, lui, était sorti à l'été. Là, mais bon, c'est peut-être juste le timing de ces deux films-là, littéralement. J'ai vu également Brother, au Québec, qui s'appelle 33 tours, de Clément Virgo. Et ça vient adapté du roman de David Shariandi. C'est un film canadien. Mm-hmm. Et souvent... les films canadiens ont un look d'enfant pauvre, mais c'est vraiment pas le cas ici.
Okay.
C'est une très belle production à la hauteur de n'importe quel drame américain de A24. D'ailleurs, ça rappelle un petit peu Moonlight de Barry Jenkins dans une certaine vibe ou les premiers films de Spike Lee. On est dans le quartier torontois de Scarborough dans les années 90 et on va suivre deux frères, pas orphelins, mais qui ont jamais connu leur père, vivent avec leur mère. Mm-hmm. Fait que le grand frère a un peu l'aspect d'un père pour le plus jeune. Il n'y a pas de relation incestueuse avec la mère. Faites-en pas, mais comme figure paternelle. Fait que les deux vont se tenir beaucoup ensemble, mais tu sens que le plus vieux, lui, veut s'émanciper puis comme transcender ce milieu.
Il rêve de grandes choses.
Oui, c'est ça, exactement. Et surtout dans la musique, il veut devenir un producteur comme Dr. Dre.
D'où le titre 33 tours en français.
Exactement. Ben, il écoute beaucoup, beaucoup de vinyle. C'est très un gros fan de musique, mais c'est aussi un costaud qui s'en laisse pas imposer dans le quartier. Fait que son frère, qui est beaucoup plus sensible, qui est plus introverti, plus réservé, va le suivre pas mal tout le temps. Puis le film est divisé comme en trois, peut-être pas décennies, mais trois parties temporelles. Tu les vois quand ils sont vraiment jeunes, fait que mettons quand ils ont 7-8 ans, ben on sent qu'ils ont peut-être un 4 ans de différence, mettons, là. Mais en tout cas, ces âges-là, quand ils seront au secondaire, puis dans la vie adulte, quelques années plus tard, et on sent qu'il y a un drame qui s'est passé. Et tout au long du film, ben là, le récit va se promener là, d'une trame à l'autre un peu.
Mm-hmm.
Pour qu'on comprenne un peu ben, qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est pas juste une histoire de quel événement tragique va arriver, mais le réalisateur voulait vraiment qu'on sente c'est comment être un Afro-Américain, Afro-Canadien, là, quand on se promène dans la rue, la perception des gens sur soi. Puis c'est drôle parce qu'il est Aaron Pierre, il est super costaud, là, à la Jonathan Majors quasiment. Là. Puis... Tu comprends qu'il est full doux, il est full respectueux avec sa mère, il protège son frère. Oui, il se tient avec des petits pas fins, mais lui, il fait pas ça. Il est plus focusé sur la musique, son ami DJ. Mais des fois, il se promène dans la rue avec un hoodie, puis soudainement, t'es comme, hey, il a l'air d'un gars qui veut se battre, puis alors que pas du tout. Fait que, c'est ça, le film te laisse un peu penser que si tu le croisais sur le trottoir, t'aurais peut-être peur, puis on en voit des gens qui se tassent d'un pas quand ils le voient, surtout que t'es. En plus, ça se passe il y a comme 30 ans.
Ouais.
Mais fait que c'est très intéressant dans la mise en scène. C'est super beau. C'est un petit peu, des fois, audacieux, justement, là, tout ce mélange de temporalité-là. Pourrait ressentir quelques longueurs. C'est un rythme assez lent, assez introspectif. Là. Pas lent comme juste... Tu vois quelqu'un manger une tarte puis rien dire pendant 20 minutes. Là, mais tu sais, ça prend du temps avant qu'il y ait un petit peu plus de rythme, si on veut, dans ce qui se passe. Ils se font beaucoup harceler par les policiers également. Dès qu'il y a du brasse camarade, on va. Hey, il y a eu un vol, il y a à trois pâtés de maison d'ici, là, on vous fouille. Puis, ils sont vraiment tannés de tout ça. T'sais. Fait que le film est nommé 14 fois au Screen Canadian Awards, les prix écran canadiens.
Mm-hmm.
C'est vraiment beaucoup. J'ai regardé un peu c'était quoi les nominations. C'est sûr que 14 fois, c'est la façon de dire que ce film-là se démarque parmi le reste, mais qu'il n'y a peut-être pas une grande diversité non plus de bons films canadiens. Il y a Viking qui est en nomination dans quelques catégories également. Je sais pas comment ça marche l'inscription. Il n'y a pas tous les films québécois sont pas là. Ce n'est pas non plus un raz-de-marée. Ça doit...
C'est souvent le cas, honnêtement. T'sais. D'habitude, tu as comme un ou deux films québécois qui vont réussir. Quand il y a un film québécois exceptionnel, ben lui, il va peut-être avoir, c'est comme Crazy ou quelque chose de même.
Ouais, c'est ça.
Avoir 10, 11, 12 nominations, puis il va gagner gros, mais...
C'est ça.
Ouais. Il y a encore les deux solitudes quand même un peu présentes.
Exact, mais je sais pas si c'est parce que... Tu sais, je crois pas que chaque film québécois est soumis là-bas.
Moi, j'ai l'impression.
Ah ouais, peut-être.
Ah ouais, j'ai l'impression. Mais des fois, ils vont... préféré nommer des trucs plus obscurs canadiens que personne.
Mais
ils n'ont
un peu pas le choix. Ben, ouais, Viking, il a eu une grosse reconnaissance au TIFF puis tout. Fait que lui, c'est comme parfait, on le place. D'ailleurs, Brother aussi avait joué au TIFF puis s'était fait remarquer là-bas. Fait que moi,
il y a une aussi... histoire dans l'air du temps, finalement, quand même, avec
ouais,
tout
exactement,
ce profilage racial. Puis,
mais on dirait que. Avant d'aller voir le film, je pensais pas que c'était ça. Je croyais que ça allait être comme deux frères puis un qui veut faire du rap. Puis j'étais sûr que c'était parce qu'il y avait beaucoup de scénarios qui parlaient de ce milieu-là. T'sais. Puis là, je parlais de deux frères, mais la relation avec leur mère aussi, monoparentale, qui travaille comme une forcenée pour qu'elle aille à l'école puis qu'elle ait l'éducation. Fait que ça a l'air de « Ah, on a tout déjà vu ça dans plein de films. » Ben peut-être, mais je l'ai trouvé vraiment touchant dans celui-là puis très près de nous finalement, genre. C'est comme après, j'ai lu sur une entrevue avec le réalisateur qui évoquait, tu sais, je veux que les gens ressentent ça, je veux que c'est pas un film de noir pour les noirs, tu sais, pour tout le monde, c'est un film qui se veut empathique à sa façon, puis c'est exactement ce que j'ai ressenti quand je le regardais, puis je le savais pas que c'était ça l'objectif, donc c'est mission réussie. T'sais. Fait que je pense honnêtement que c'est le meilleur film de cette fin de semaine si on va aux qualités de qui font des grands films. Là. Mm-hmm. Mais là, si ça vous adonne, ça vous parle pas pantoute, ben, allez voir ce qui vous intéresse. Je vous en tiens pas rigueur. Mais bref, pour les qualités esthétiques. Aussi, beaucoup de nominations, ben, évidemment, avec 14, là, au traitement sonore. C'est vrai que c'est très présent. Yep. Mais c'est ça, c'est pas un film que les gars vont rapper tout le temps. Ils écoutent de la musique très variée. Ils se veulent plus producer. À un moment donné, ils se peuvent avoir des DJ battles un petit peu. Mais c'est pas tant que ça autour du rap. Tu vois que ça... Ça les inspire au niveau vestimentaire, mais c'est pas 8 Miles. dans les autres sorties, le retour du documentaire québécois de la semaine est très bien ici. Pour ouais. J'ai placé ma mère de Denis Desjardins, qui a fait un passage à Tout le monde en parle.
Assez remarqué, oui. Ouais, hein, ouais.
Le documentaire raconte, va suivre dès 2018 les efforts de lui et sa sœur pour trouver un CHSLD décent pour leur mère qui est atteinte de maladie d'Alzheimer. Donc, la dégénérescence progresse, malheureusement. Fait que c'est drôle, il avait fait un docu que j'ai pas vu, mais en 2019, donc il avait dû commencer à tourner ça un petit peu avant, évidemment, où là, ça s'appelait Le Château, puis il plaçait sa mère sur... C'est le nom de la résidence, le château, okay. Quelque chose. Puis elle commençait déjà sa perte d'autonomie, fait qu'il fallait qu'elle passe, je pense, de autonome à non-autonome ou semi-autonome, là, une affaire de même. Fait qu'on voyait le parcours de comment là-dedans, mais là, on sent que c'est malheureusement la descente. Puis ce qui est arrivé, il a dû en parler, c'est que la COVID a frappé ben à oui. ce moment-là. Ça faisait partie des CHSLD qu'il y avait beaucoup de cas. Tu étais en isolation, il y avait... Il ne pouvait pas parler à sa mère, ne pouvait pas aller la visiter. Il y avait des infirmiers qui l'appelaient une fois de temps en temps pour donner des nouvelles, mais fait que c'est vraiment dur. Là. Ça arrive vers la fin du film. Puis, tu sais, le processus, on sent qu'il y a une frustration. Il va avoir évidemment des appels avec des professionnels que tu vois qu'eux autres, c'est comme, ben, gars, moi, je fais ma job, il faut que je la place. S'il y a une chambre là, tu l'envoies. Si tu refuses, on te remet dans pile. Très, très bureaucrate. Mais il y en a aussi qui sont très humains, très chaleureux, très empathiques. Fait que c'est pas juste une façon de dire que tout est noir puis tout est pourri. Mais en général, il y a un gros problème et c'est dans, de toute façon, toutes les strates gouvernementales, c'est qu'à un moment donné, la bureaucratie est plus forte, est plus forte que chaque individu. Puis c'est dur de changer cette machine-là. Fait que ça conscientise là-dessus. T'sais. Puis j'en parlais des fois, c'est le genre de film que je sais pas, j'aurais pas écouté, mais j'ai pris le temps puis je le regrette pas. Quelque chose de très touchant. Puis là, ça me rappelle aussi que... Mes parents sont encore en forme, mais plus je vieillis, plus ils vieillissent. Puis à un moment donné, ben, peut-être avoir des choix à faire là-dessus. Puis c'est ça qui est un peu brisant, mais ça fait partie peut-être du bagage d'expérience de voir.
Et c'est d'autant plus inquiétant parce que c'est pas la première histoire d'horreur non plus qu'on entend avec tous ces foyers-là. Fait que c'est très questionnant. C'est... Mais moi, je dois avouer que j'aurais peut-être pas été porté non plus à l'écouter, mais suite à leur passage, tout le monde en parle, que j'avais trouvé très touchant. Oui, ça m'a donné le goût, effectivement, de regarder ça. Puis je pense que ça va avoir un bon rayonnement à cause de cet entretien-là. Fait que...
Ben, puis, tu sais, c'est sûr que dans leur histoire aussi, c'est pour ça que tout n'est pas mis autour de la COVID. C'est pas un film pour vous rappeler la COVID, parce que sinon, ça serait quand même anecdotique d'une certaine façon. Parce qu'ils ont été extrêmement malchanceux dans ce scénario-là. Ouais, tout le monde, quand c'est arrivé, ne savait pas quoi faire, ne savait pas comment gérer ça. Puis ça a été un fiasco quand même, comment ça a été géré des résidences pour personnes âgées. Mais c'est pour ça que le trois quarts du film, c'est comme avant que tout ça arrive, fait que juste le traitement normal comme on voit pour aujourd'hui, faut l'envoyer à une place, ils vont la visiter, il dit « Je refuse que ma mère est là, c'est un endroit qu'on dirait qu'on lui demande de mourir en étant à cet endroit-là. » Puis elle dit « Ah ben là, c'est vous refusez, puis c'est comme... » C'est comme mal.
T'as zéro choix, t'as zéro contrôle.
C'est
finalement.
Ça. Puis quand ils t'appellent, s'il y a une place là, faut que tu décides
ça,
là.
24 heures, genre, là, c'est ça. Ouais, c'est hallucinant. Pour quelque chose d'aussi important et de digne pour quelqu'un en fin de vie. T'sais, c'est comme traité comme de la marchandise.
C'est ça. Puis on parle moins du privé. Je sais pas si on parlait à tout le monde en parle, mais tu sais, le privé, ça existe, mais c'est des affaires de 5000 piastres par mois. Là,
on s'entend que c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça.
Non, c'est fou, là. Et ça, et dans les autres films, il y a Inside, Enfermé, de Vasilis Katsoupis, avec Willem Dafoe, que j'attendais avec une certaine impatience, mais qui finalement est en sortie très limitée. Mm. Fait que, on n'a pas eu la chance de le voir. Il y a certains cinémas dans certaines villes qui l'ont. Fait que... dans ce temps-là, c'est une stratégie de sortie qui est tout à fait louable. Là. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. D'essayer de créer un buzz, puis que là, au fil des prochaines semaines, il va y avoir de plus en plus de copies accessibles pour créer une rareté, finalement, mm-hmm. pour le film.
Mais la prémisse, c'est quand même assez intrigante.
C'est ça. Dans le fond, c'est un voleur qui... rentre dans un appartement à Manhattan, au dernier étage d'une grande tour à condo, pour voler des œuvres d'art. Mais là, il va avoir une malfonction. Il va rester coincé là. Et ça a comme fait monter la température. Ben, je pense que ça joue. Fait que des fois, il fait chaud, des fois, il fait froid. Il y a comme plus d'eau, il n'y a pas de bouffe, il n'y a rien. Puis son complice qui est de l'extérieur l'abandonne là pour pas se faire pogner. Fait qu'il est vraiment coincé seul dans un appartement qui a juste des œuvres d'une grande valeur. Genre.
Et doit survivre le temps de trouver une façon de s'en échapper.
Exact,
j'imagine.
Puis c'est sans devenir fou aussi. Puis c'est Willem Dafoe qui est toujours assez intense.
Ouais.
Fait qu'on souligne la bonne mise en scène, la direction photo. Mais la critique reste divisée entre l'ingéniosité, mais le concept qui va s'essouffler un peu au fil du récit. Fait que c'est pour ça que des fois, ça donne des espèces de Rotten Tomatoes de milieu, mais c'est parce qu'il y a du monde qui adore puis du monde qui déteste. Là.
Ouais.
S'il y a des moyennes, ça marche juste quand les vraies réponses sont autour de la moyenne. Sinon, ça fait pas de sens. Voilà pour Inside ou Enfermé. Fait que c'est tout pour cette semaine. Moins de sorties, c'est plus léger un peu. La semaine prochaine...
C'est un programme assez costaud.
John Wick, Chapter 4.
Près de 3 heures en plus.
Oui, 2h49. Mais les premiers échos, là, il y a eu des visionnements de presse aux États-Unis, à Montréal également, sont excellents. Là. Pour ceux qui aiment le genre, on dit « Ah non, chaque minute mérite d'être là ».
Tant mieux.
Bien curieux de voir ça, mais les échos sont super positifs. En fait, moi, j'aime les John Wick, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment le running time qui est mon seul. Ah, vraiment?
C'est
surtout qu'il y avait l'idée d'en faire plein, d'avoir des spin-offs, d'avoir des affaires. Fait que pourquoi autant de temps d'écran dans celui-là? C'est aussi un peu plus dur pour les programmateurs, les salles de cinéma, là, des films. Puis on dirait qu'on a soupé cette année, des films de plus de 2h30. Là. Fait qu'au lieu de jouer 4-5 fois par jour, ben, des fois, ils jouent juste 3 fois par jour. Fait que moins d'argent dans ce temps-là. Mais le troisième, c'est ça, on s'en reparlait au bureau. Puis les premiers, c'était plus limité. Il avait fait un premier week-end de 15 millions, l'autre 30, mais le dernier 55.
Ouais, plus ça va.
Fait que j'imagine qu'ils ont sûrement des espoirs d'avoir un genre de 60-70 millions au premier week-end. Mais comme tu dis... Ça reste un des films 13 ans et plus. Je ne sais pas si ils sont rated R.
Aux États-Unis, sûrement que ça doit être 18 ans, je ne peux pas voir.
Ça, ah, c'est ça. Ils ne sont pas mature, mais ils sont rated R. C'est ça.
Ouais.
Fait que. Ouais, c'est ça. Bien curieux, on saura plus tard. Mais je pense que ça va être cette semaine avec Shazam. Ça va être un petit peu plus tranquille au box office.
Fait que tu me disais que tu allais te retaper les trois, mais peut-être pas.
Ben, d'habitude, je fais ça avec. Depuis le 3, on fait ça avec des amis. On avait réécouté les deux, puis on était allé voir le soir même le troisième. On avait encore pour projet de le faire, mais je l'aurais pas annoncé encore qu'il durait presque 3 heures. Je sais pas s'il écoute le balado. Surprise. Fait que sinon, peut-être qu'on va le faire en deux jours ou en deux soirs. Là. Une journée qu'on tape les trois, puis le lendemain, on va voir.
Moi, j'avoue, je pense que je vais les réécouter. Pas une journée, mais je pense que je suis dû pour... C'est pas des films que j'ai réécoutés. Tant que fois, je pense que le 1, j'ai peut-être vu 3 fois, mais les autres, je pense une fois. Là, fait que...
Ben, c'est ça. J'ai dû voir le 1 3-4 fois, peut-être 3 fois, le 2 2 fois, puis le 3 une fois au cinéma. Là, fait que... moi, je sais pas, je pense pas que je vais les réécouter avant que le 4 sorte. Puis là, je vais aller voir le 4 pour nous, pour le balado. Je retournerai le voir avec mes amis. Fait que tant mieux si toi, tu peux te retaper les autres pour faire le suivi de l'histoire. Des chiens d'Ali Berry. Puis... pourquoi il se coupe le doigt, etc. Fait que voilà, vous pouvez comme d'habitude nous écrire balado au singulier à commercialmonciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Monciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations.
Et sur ce, on vous souhaite bonne semaine de films et bon popcorn.